Fidèles auditeurs, c'est parti pour la deuxième tranche du magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Et dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler des fake news. Les fake news, comment les journalistes peuvent-ils contrer les fake news dans les réseaux sociaux? Eh bien, nous recevrons, tout, si tout va bien, M. Jean-Pierre Yves-Boudot, représentant de l'UNESCO à RDC. Professeur Lino Pungi, expert en communication, sera également de la partie. Et nous allons échanger ensemble autour de ces thématiques. Vous avez des questions et préoccupations, eh bien, appelez au 081 890 63 94, écrivez-nous à service@radiocapi.net. Merci à tous les internautes qui ont déjà réagi sur la page Facebook de l'émission Capi Service sur ces sujets. Excellente condition d'écoute de cette deuxième partie de l'émission Capi Service à la technique Dieudonné Nyangasa, Tati Mapougou, assure la coordination et la réalisation.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre interview.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Zambe ya sambe la kate Ako sambe la nani Hein Tishwanzaka Belle de belle hein? Patricia Lekaye, Mposana Kinao Likolo, Atterrissage Ga Lobi, Anto Isaï.
Pale ya mokili banda wana Iza Mathieu Bichere la to adne image
Si 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 liye azala kina sante Fote ya la mumote mene kona kie Naite 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 kere kola
Si li bi wa 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 Sokyo to mokina sala kyo kikitisa Sokyo silikina sala kiko senga parto Kweza kolingo Silipi wawo
Amile ya tongo sa
Silipi ya siyombele Shupe minda
Vous êtes sur Radio Capi, une voix pour tous, mesdames et messieurs. Merci d'être à l'écoute du magazine de la vie au quotidien. Après ces disques, eh bien, nous allons accueillir un autre invité pour parler des fake news, comment les journalistes peuvent et tout le monde peut contrer les fake news. Eh bien, la désinformation et la mésinformation se portent bien dans les réseaux sociaux. Chaque jour, des milliers de fausses informations sont publiées par des soi-disant influenceurs, créant ainsi la cacophonie, mensonges, rumeurs et canulars sur les acteurs politiques et autres sont bien conçus pour désorienter les gens. Alors, sans discernement, certains internautes se mettent à partager des faits, photos ou des vidéos dont les origines sont douteuses et qui peuvent avoir des implications fâcheuses. Alors, comment, journalistes et tout le monde, comment qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer les fake news, les fausses informations dans les réseaux sociaux? Nous avons en ligne professeur Berki Kitumo Maimona, il est expert en technologie web. Professeur Berki, bonjour. Professeur Berki, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, il y a quelques soucis. Les autres intervenants ne sont pas encore joignables. Alors, il était en ligne, il s'est déconnecté. Bon, Tati Mapoukou va tenter de le rappeler pour le mettre de nouveau en ligne. Je rappelle les sujets. Je disais tout à l'heure que nous allons parler des fake news. Hein, comment contrer les fake news. Professeur Berki, bonjour. Professeur Berki, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, il y a quelques soucis. Au niveau de la communication, sûrement il nous entend pas. Tati va s'occuper de ça tout à l'heure. Bien, et merci à tous les internautes qui ont déjà réagi sur Facebook pour donner leur point de vue par rapport aux fake news. Et tout à l'heure, nous aurons l'occasion de lire certaines réactions. Je disais que la désinformation et la mésinformation se portent bien dans les réseaux sociaux. Chaque jour, on reçoit des milliers de fausses informations qui atterrissent dans nos téléphones et facilement. Il y a des gens qui les relaient, qui les partagent, sans pour autant se poser les questions de savoir si c'est vrai ou pas. Ben voilà, on partage des photos, des images et autres dans les différents réseaux sociaux. Alors, merci aux internautes et je vais lire quelques réactions rapidement. Fariel Malassa, depuis Les Beaux, nous dit « C'est un comportement criminel et incivique, car même les responsables se comportent sur les réseaux sociaux comme les enfants, en créant des faux comptes au nom de tel ou tel, publiant des fausses informations au nom de tel, tout simplement pour les discréditer. Récemment, le secrétaire Augustin Kabouya a dénoncé une vidéo à travers laquelle il dit que l'UDPS va prendre des armes pour conquérir le pouvoir en 2023, alors que ce sont des mensonges, mais pour les autres croient que c'est la vérité. Mais quelles sont les sanctions prévues pour ce genre de situations? Professeur Berki Kitumu, bonjour.
Bonjour, Jody.
Bienvenue dans cette émission qui s'intéresse aux fake news. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fake news, professeur?
Alors, déjà, il faut retenir que par fake news, on voit les fausses nouvelles, hein, les nouvelles truquées, qui généralement sont l'émanation d'une volonté parfois de complotisme, hein, des gens qui sont vraiment ancrés, investis dans cela. Parfois, c'est juste du fait d'un manquement d'information, d'une ignorance, mais puisqu'on voudrait nécessairement être sur l'actualité, on lance une information sans avoir vérifié.
Voilà, c'est ça. Et ce sont ces gens-là qu'on appelle les influenceurs?
Non, pas nécessairement. Les influenceurs ne sont pas les producteurs des fake news. Un influenceur, c'est quelqu'un qui use du réseau pour exister, pour vendre quelque chose, pour faire du commerce ou pour faire connaître ses activités. Mais celui qui fait du fake news, c'est vraiment un... Bon, soit c'est un complotiste, hein, soit c'est un complotiste, c'est-à-dire quelqu'un qui a investi dans la théorie du complot, qui voit le mal dans tout ce qui se dit, qui n'a plus confiance en ceux qui les dirigent, et à travers cela, il crée des informations juste pour soit dérouter, pour nuire ou pour juste se faire connaître.
Et il semble que certains le font pour gagner un peu plus d'argent, parce que plus il y a des vues, vous gagnez un peu plus.
Ben oui, tout à fait. Il y a un côté, il y a un intérêt lucratif aussi, mais seulement... même quand on le fait pour gagner de l'argent, il faut être sûr qu'il y ait le retour par rapport à cette rentabilité. Alors, je prends un exemple simple. On dit, voilà, il y a la Covid qui arrive, tout le monde est malade. Mais dans la théorie, dans la logique du complotiste, il s'est dit non, voilà, c'est encore une autre façon pour les dirigeants de nous entraîner dans une fausse existence. On a sorti, par exemple, des faux rapports, de faux vieux rapports de la CIA. Les gens sont allés dans des théories bibliques pour dire à un moment, il y aura la bête qui va arriver, 666. Donc, c'est parfois aussi ancré dans les cultures, dans les mentales de certaines gens. Et il y en a aussi qui font du commerce avec ça. Ils veulent que l'information sur son site soit lue, soit vue. Donc, ils usent parfois des informations truquées, déroutées, juste pour attirer l'attention. Mais puisque le sérieux est nécessaire dans la diffusion de l'information, ces genres de sites ne sont pas toujours bien classés. Et parfois, Google, qui est l'un des plus grands référenceurs, les met sur la liste noire, ce qui ne les permet pas toujours d'avoir un retour lucratif.
Bien. Et généralement, ces fake news tournent toujours autour des questions politiques. Pourquoi?
Bon, je vais dire chez nous, parce que il faut le reconnaître que l'activité politique est au centre de toute l'information chez nous, mais c'est pas nécessairement le cas sous d'autres cieux. Il y a aussi des fake news qui arrivent sur d'autres questions. Très souvent, c'est sur la presse people, hein, où il faut vraiment avoir l'attention des gens, faire connaître les histoires sur les stars et autres personnes ayant prépondérance dans le public. Mais chez nous, puisque l'activité politique a une importance capitale, tout le monde, nous sommes tournés vers l'activité politique. C'est pourquoi, de plus en plus, nous avons ce côté-là, fake news politique, fake news politique, fake news politique.
Il semble qu'il y a aussi les états-majors politiques, les différents états-majors qui organisent aussi des campagnes en ligne pour saper ou soit discréditer les autres.
Bon, c'est une façon aussi de maintenir sa communication, nécessairement pas pour saper, mais peut-être aussi pour faire parler de soi-même aussi. Vous savez, donc l'état-major politique crée une information fausse, qu'il diffuse, qu'il partage, et il essaie d'avoir un maximum de retours. Comme ça, il sait tâter son audience auprès du public. Ça peut aussi être vrai. Et de l'autre côté, il y a aussi dans le combat politique, hein, on peut aussi le faire dans le combat politique pour essayer de nuire à l'adversaire, créer des informations fausses, triquer les informations, ou bien désorienter les propos de quelqu'un pour détourner, dévier les propos de quelqu'un pour donner une autre façon de voir, pour que le public ait un autre aperçu de la question posée.
Et il semble qu'il y a parfois les journalistes aussi se retrouvent en train de relayer les fake news dans leurs médias.
Donc, voilà, en journalisme, ça arrive souvent quand le journaliste est trop pressé. Nous sommes dans cette guerre de l'exclusivité. Là, quand il veut vraiment nécessairement être dans l'exclusivité, être le premier à publier une information, qu'est-ce que le journaliste fait? Il suit la rumeur. Il suit la rumeur. Bon, on dit toujours que la rumeur, c'est aussi le début d'une information. Mais on le connaît en journalisme, il faut d'abord vérifier l'information. Et on dit, une information vraie est une information vérifiée. C'est-à-dire la base pour être sûr que ce n'est pas un fake news. Donc, en journalisme, il arrive aussi que le journaliste est pressé d'être le premier à publier l'information s'arrête juste à son informateur, sans nécessairement connaître les intentions de l'informateur. Parce que, par exemple, ça serait une information que le journaliste aurait perçue sur un réseau social, mais celui qui a posté cette information a des intentions. Et par rapport à ses intentions, il influence donc le journaliste, et le journaliste tombe dans ce piège-là et finit victime d'un fake news. Mais il y a aussi des journalistes qui inventent des informations pour se faire connaître, pour qu'on fasse attention à eux, pour qu'un homme politique, par exemple, le suive pour lui dire « Mais pourquoi, mon frère, tu as publié ça ? Il faut faire un démenti. » Et lui, il a l'occasion de se faire couper.
De gagner un peu d'argent. On va accueillir les auditeurs Platini Mbombo de Mbandaka et Charles Kisimba de Lubumbashi. Nous parlons des fake news, comment les journalistes peuvent les contrer, surtout dans les réseaux sociaux. Platini Mbombo, bonjour.
Jordi, bonjour. Je salue l'invité.
On vous écoute.
Voilà, merci beaucoup Jordi pour m'avoir accordé la parole. Je pense que la thématique du jour est louable, parce que quand on adresse aux hommes des médias, je fais partie de cette équipe. Mais aujourd'hui, je voudrais quand même vous dire une chose, surtout dans le fake news, que j'ai déjà connu depuis longtemps, mais moi-même aussi, je suis l'homme de la presse ici de la ville de Mbandaka, parce qu'il y a des effets souvent, ça fait circuler sur les réseaux sociaux. Mais il y a des informations. Aujourd'hui, je peux quand même vous rappeler que sur mon compte Facebook, j'ai déjà eu des gens à qui on a piraté même certains noms de gens, parce que j'ai au moins 5 amis. À la personne, il y a une autre, on a écrit Félix Tshisekedi à Titi. Donc, c'est ça leur nom. Il y a aussi, il y a les noms des grandes personnalités à travers le pays qui, à qui on envoie le message. Mais souvent, on constate qu'il y a un très bon message. Alors, surtout dans le cadre de la publication. Et souvent, nous sommes arrivés à avoir toujours beaucoup d'informations, surtout sur le plan politique. Alors, si moi, je fais quand même allusion, parce que soit Mbandaka, l'Équateur, vous connaissez quand même l'actuelle politique de la province de l'Équateur qui roule pour le moment. Et maintenant, si vous êtes basé sur les réseaux sociaux, vous allez voir comment on publie. Même si c'est des journalistes, pas de la vie de Mbandaka, mais c'est tout le temps du territoire national, comment te publie cette information qui n'arrive même pas à récolter les bonnes informations sur le terrain. Alors, ce que moi, je peux quand même dire encore aujourd'hui, c'est que le journalisme, c'est que je vous avais déjà annoncé que nous avons l'obligation de collecter et diffuser aussi l'information, les bonnes informations derrière. Mais sur les réseaux sociaux, moi personnellement, je pense qu'il y a des informations. Il y a d'autres informations réellement qui est née. Si la vérification est très bonne, parce qu'il y a aussi des bonnes informations qu'on souvent on le publie sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi d'autres pas qu'il y a le copier-coller que souvent on les requitte et on les voit sur les réseaux sociaux, que l'autre là a publié, l'autre là a copié, il a aussi pu republier encore qu'on les voit. Mais les informations, ce qu'on constate pour le moment sur les réseaux sociaux, parce que même hier là, j'ai lu quelqu'un a publié sur les réseaux sociaux que le gouvernement de l'Équateur ne peut encore revenir à Mbandaka. Alors ça aussi, ce n'est pas une très bonne information parce que on n'a pas encore vérifié. Nous connaissons l'activité actuelle pour le moment, mais on ne connaît pas la guerre des causes. Mais ce que je veux ajouter encore, si un journaliste, parce que souvent nous on dirait sur le terrain, on fait ce qu'on appelle les reportages. Quand on fait les reportages, on doit prendre les photos, on doit filmer, on doit cadrer, on doit on se prendre sur les sons. Si réellement le journaliste publie une information avec des preuves en appui, comme les photos, hein, les photos, on commente, on publie, mais souvent si on commente avec les commentaires, mais souvent nous on commente seulement le grain de ligne.
Alors, donc, quelle est la question que vous adressez à l'invité rapidement?
Oui, la question que je vais poser à l'invité, si réellement les journalistes sur le terrain, je prends un exemple de moi-même.
Quelle est la question rapidement?
La question que je vais poser, c'est l'activité moi-même, je vais dire, si l'invité peut me dire. Moi-même, j'étais à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Lorsque les tueries entre les deux institutions, le gouverneur est là sur place, j'ai eu l'information, j'ai pris les photos. Si je publie ça avec des commentateurs, est-ce que moi-même, on peut encore retourner contre moi que j'ai fait la faute ou comment? Parce que j'ai l'information, je suis dans l'information. Voilà un peu. Je veux quand même avoir un peu l'équipe.
Merci Platini. Charles Kisimba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour monsieur l'invité, c'est Charles Kisimba Tarangeta.
Quelle est votre question, Charles?
Oui, par rapport à la cacophonie qui se passe sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y a pas moyen de supprimer ou bien de mettre fin à tous ceux-là qui se disent les prospères ou bien des groupes de ressortissants de... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre fin à ça? Parce que ce que nous remarquons, ce que nous constatons dans tout ça, il y a surtout le discours haineux, le discours de tribalisme et conscient qui se passe dans les groupes de les ressortissants de... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre fin à ça sur les réseaux sociaux?
Eh bien, merci. Professeur Becky.
Oui, merci Jody. Alors, premièrement, pour Platini Mbombo, je vais lui remercier pour sa question. Alors, je pense que il est plus dans la question de la véracité de l'information. Hein, moi, je placerais cela sur la problématique de l'amateurisme qui se remarque au sein de la profession journalistique. Il y a d'un côté cette absence de rigueur, hein, de la part du journaliste qui a complètement oublié qu'il doit aller au-delà de ce qu'on lui dit, hein, et vérifier l'information, aller au-delà de ce qui est proposé, vérifier que la personne qui lui donne l'information, c'est la personne qui a le titre qu'il est faux, est-ce que la personne a c'est la personne ressource qu'il faut, aussi vérifier le caractère de l'information, les réelles intentions. Il y a aussi ce côté paresse, parce que Platini a parlé du copier-coller. Et je voulais déjà signaler à ceux qui s'adonnent au copier-coller que les référenceurs, quand ils font leur checking, leur analyse, ils sont très regardants vis-à-vis de ceux qui font des copier-coller. Et plus le site d'information fait du copier-coller, plus il est mal classé. Pour Google, c'est un site de plagiat. Il sera sur la liste noire dans le temps. Alors, pour ce qui est de Charles Kisimba, qui voudrait qu'on supprime les groupes des ressortissants sur les réseaux sociaux, mon très cher confrère, compatriote, il est difficile déjà qu'Internet ait créé sur base de la démocratie, de la démocratisation de l'information. Internet, c'est la liberté de l'information. On ne peut pas abstraindre l'Internet. Internet, c'est abstraindre une liberté. On ne peut pas interdire à ces gens ou supprimer ces groupes de ressortissants sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'abstenir d'en être membre ou aussi de faire un message pour les amener à plus de considération. Ou signaler, il y a aussi la possibilité de signaler pour que Facebook ou les WhatsApp suppriment cela, mais on ne peut pas faire une loi où on supprimerait tous les groupes juste parce que on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font.
Bien. Alors, professeur Berki, comment faire établir la différence? Quels sont les éléments qui peuvent permettre aux internautes de savoir que de déceler une bonne information de celle qui ne l'est pas?
Ok. D'abord, premièrement, il faut aller au-delà du titre. Et aller au-delà du titre, c'est-à-dire lire le contenu. Mais si le contenu n'est qu'une phrase, un mot, ou une phrase avec quelques mots seulement, il faut vérifier le caractère plausible même de l'événement énoncé. Est-ce que ce qui est dit correspond à ce qui est entendu? Plusieurs personnes ont tendance à penser que ce qui est sur Internet, c'est de la vérité, c'est ce qui est vrai. Parce qu'on estime que Internet est ouvert, donc on a le temps de vérifier. Non, Internet, ce qui est publié sur Internet l'est par des personnes, par des gens. Même quand ce sont les robots qui les font, ces robots-là sont programmés pour les faire par des humains. Donc, il y a notamment vérifier la date de l'information qui est publiée, s'il s'agit d'une information publiée. Il y a les caractères plausibles, il y a aller au-delà du titre pour vérifier. Il faut aussi identifier l'auteur.
Par exemple, dernièrement, il y a eu des fake news sur la mort bien avant la mort du cardinal. Il y a les informations allaient dans tous les sens que le cardinal est décédé alors qu'il n'en était pas encore le cas.
Et là, j'ai pris ce cas-là pour dans un de mes cours et j'ai indexé l'une des personnes qui a fuité cette information, cette fake news, parce que la personne... Bon, évidemment, il a perdu ce titre-là, mais il n'y a pas longtemps, il était quelqu'un, une source sûre au niveau de la présidence. Mais est-ce que cette personne-là, ça on voit au-delà de ce caractère-là, ce statut-là qu'il avait autrefois, mais est-ce que cette personne-là est une source sûre au niveau de la SENCO, au niveau de l'Église catholique? C'est pourquoi je parle de l'auteur, celui qui diffuse l'information. Il faut toujours vérifier la source. fait, ce sont des notions élémentaires de la méthodologie de la presse. La source, est-ce que cette source est une source primaire? Est-ce une source secondaire? Est-ce une source officielle? Est-ce que cette personne est habilitée à fournir cette information? Tant que cette personne ne réunit pas les conditions lui conférant le statut de source officielle, il y a toujours lieu de douter et il faut faire une nouvelle vérification de l'information. Et c'est à ce niveau-là que moi, je situe la paresse du journaliste. Cet élan à vouloir faire de l'exclusivité quand l'information n'est pas partagée par la personne ressource officielle, il faut toujours vérifier, aller au-delà, confronter les sources, faire un recoupement. Comme ça, au moins, on est sûr que cette information donnée a été suffisamment passée au crible. Donc, on est sûr que, après le tamis, l'information est vraie.
Bien, on va accueillir Benjamin de Kananga et l'ingénieur José Kankou de Chikapa. Benjamin, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour à l'invité et bonjour à tous les invités de la radio Camille.
Quelle est votre question par rapport aux fake news?
Merci beaucoup, monsieur Jody. D'abord, je t'avais posé la question, que faut-il faire pour que les journalistes puissent contrer les fake news? Mais monsieur Jody, rappelez-vous que certains journalistes aujourd'hui sont auteurs de fake news. Je pense que vous ne pouvez pas me dire le contraire parce que moi, je suis dans les mêmes secteurs, monsieur Jody. Et si aujourd'hui, on pose la question à ces journalistes-là, aujourd'hui, vous avez combien d'années dans la profession? Ils vous diront, j'ai 6 mois, j'ai 8 mois. Quand même, c'est très honteux, hein? Quelqu'un a 6 mois et c'est pas devenu journaliste. Vraiment, c'est très dangereux pour la population. Mais si je dis, moi, je m'en vais vous dire qu'aujourd'hui, si la population est très mal informée, vraiment, elle peut se paniquer. Et d'ailleurs, dernièrement, avec la COVID, de voir ce que cela représentait sur l'ensemble du territoire national. Moi, je pense que c'est d'abord le responsable de ces médias. Je parle en termes de certains journalistes que moi je connais qui sont auteurs de fake news sur les réseaux sociaux. Certains responsables des médias aujourd'hui ont failli à leur mission parce qu'ils procèdent au recrutement qui ne suivent même pas les normes journalistiques. Ça, c'est un. Aussi au rédacteur en chef. Vous allez voir dans certains médias, monsieur Jody, quelqu'un qui vient juste, il n'a jamais été sur une chaîne quelconque, il vous dépose sa demande. Et vous l'appelez directement, ils sont automatiquement membres de la rédaction. Et des jours après, vous la voyez sur le terrain. Vous allez nous récolter les informations. Vous vous imaginez? Maintenant, quelqu'un comme ça, il va ramasser l'information comme ça, et il vient avec cette information-là. Vous, rédacteur en chef, vous n'avez pas fait même le traitement sage de cette information-là. Vous la diffusez. Et l'auteur de cette information-là, problème pour prendre la même information-là et la mettre sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce que ça fait? Et directement, quand la population est informée, vraiment, c'est la panique. Moi, je pense que c'est d'abord le responsable des médias, les journalistes eux-mêmes qui sont à la hauteur de certaines fake news. Ça, c'est un. C'est bien aussi, monsieur, je dis. Si vous voyez aujourd'hui, les autorités du fait parfois se plaignent pour dire non, vous voyez, dans les réseaux sociaux, il y a ceci, il y a cela qui se passe. Mais moi, je dirais, ça fait très honte pour un pays comme la FDC. Parce que dans ce pays, nous avons le ministère de la communication et médias. Posez-vous la question. Qu'est-ce que le ministère a fait pour contrer ces fake news? Pratiquement rien. Et ce sont les mêmes autorités, les hommes politiques qui viennent se prendre pour dire non, vous voyez, il y a ceci, il y a cela qui se bat dans les réseaux sociaux. Moi, je pense à ce niveau, les responsabilités sont partagées. Et par le responsable des médias, le rédacteur, voit certaines personnes qui se
passent
de journalistes, alors qu'ils n'ont jamais été formés en matière de journalisme.
Merci. Merci. On va donner la parole à l'ingénieur José Kankou de Chikapa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Quelle est votre préoccupation?
Ok. Je pose d'abord ma première question. Qu'est-ce qu'il faut pour déceler une fausse information? Ça, c'est de un. Alors, la deuxième question. Quel est le mécanisme que l'État congolais peut mettre pour déceler ce système et puis mettre hors d'état de nuire ce système? Parce que nous le voyons même dans des radios locales. Un journaliste qui se dit journaliste, il part sur les réseaux sociaux, il prend même des fake news, il vient diffuser à la radio. On le voit toujours, surtout ici à Chikapa. Quelqu'un qui n'a pas bien vérifié l'information, qui n'a pas vu même l'authenticité de cette information-là, il les prend sur les réseaux sociaux, il vient les diffuser à la radio. Et nous quittons les réseaux sociaux pour des fake news, nous allons encore les retrouver à la radio. Qu'est-ce qui peut mettre hors d'état de nuire ce système?
Bien, merci. Professeur Berki.
Oui, merci Jody, merci aux différents intervenants. Alors, pour Emmanuel, je dirais, bon oui, c'est vrai, Emmanuel, on a un problème sérieux avec ces recrutements pas très soutenus. Vous êtes journaliste, vous savez pourquoi. Les médias ne payent suffisamment pas bien, donc les recrutements ne peuvent pas vraiment répondre au manque de moyens. Tant que les médias n'auront pas assez de moyens pour subvenir à la paie, aux moyens pour les journalistes, ils auront toujours à recruter des journalistes qui seront moins exigeants et, conséquences, moins professionnels. Alors, il y a aussi ce problème d'amateurisme, hein, il y a une notion, en fait, qu'on a tendance à ignorer. Et cette notion, elle est essentielle, surtout pour le journalisme en ligne. Parce que Internet les référenceurs ont tendance à toujours vouloir un contenu riche et enrichi. C'est la notion de la plus-value. On le remarque dans différents médias en ligne, quand il y a une information, c'est tout le monde qui publie cette information sans ajouter un élément de plus-value. Il n'y a rien, le journaliste est devenu un porte-plume, un porte-micro. Il prend juste et il balance. Quand il voit chez l'autre, il prend, il balance. Il ne réfléchit pas sur le côté enrichissement de cette information. Il y a cette paresse-là qui favorise aussi parfois les fake news. Moi, je prends sur un autre média en ligne, peut-être que le média a copié chez quelqu'un d'autre, et quand l'information est indirectement partagée, il y a des modifications qui interviennent, parfois même indirectement ou involontairement. Et puisque l'effort que je fournis, c'est juste de copier et de coller, je copie et je colle tout ce qu'il y a de dérivé, de tout ce qu'il y a de déplacé. Alors, pour je dirais ceci à Emmanuel Kankou. À José Kankou qui voudrait savoir comment déceler une fausse information. Je le disais tantôt, la première des choses, c'est de lire le contenu. Et si l'information n'est qu'une phrase, se rassurer que la phrase déjà est bien écrite. Est-ce qu'elle est bien présentée? Quand, par exemple, quelqu'un, en revenant sur la fake news sur le Monseigneur Monsengo, quand quelqu'un, par exemple, écrit « Monsieur Monsengo est mort », il y a déjà lieu de se demander, est-ce qu'il comprend qu'il ne s'agit pas d'un monsieur. Mais d'après là, est que le titre adéquat serait « Monseigneur ». Quand déjà il écrit comme ça, on n'est pas sûr de l'écriture de l'auteur. Alors, il y a autre chose aussi, c'est recourir à la source. Je ne serais pas confiant en voyant cette information sur, par exemple, le site d'un chroniqueur, sur la page Facebook, sur le tweet d'un chroniqueur.
Il faut toujours vérifier la source.
Toujours la source. Si c'est la SENCO qui l'écrit, là, je suis sûr que c'est vrai. Si c'est le site de la SENCO, si c'est le tweet de la SENCO, si c'est le tweet du secrétaire général de la SENCO, d'accord. Mais si c'est juste un chroniqueur, je me fais alors, dans ce cas, l'effort de confronter les différentes sources. Si c'est un média, je m'arrange pour vérifier chez les autres confrères. Est-ce qu'ils ont l'information? Bon, évidemment, là, il va se poser la question du risque de perdre l'exclusivité de l'information. Mais nécessairement, devons-nous rester dans l'exclusivité? Je ne suis pas sûr. Et puis, il y a aussi la question du monitoring officiel dont parlait Emmanuel tout à l'heure. Mais oui, mais vous savez, tant que nous n'aurons pas cette loi qui est en gestation au Parlement sur la cybercriminalité, il y aura toujours des faits criminels en ligne. On ne sentira pas cette répression, cette exigence de faire de la bonne information sur le réseau. On sera toujours exposé à ces différentes fake news. Donc il y a aussi ce côté-là, mais je sais qu'il y a aussi des monitorings qui se font de manière isolée et parfois sont interpellés les producteurs ou les auteurs de fake news.
Bien. Petro Ndezi nous appelle de Kindu. Bonjour. Petro Ndezi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, ma préoccupation, c'est celle-ci. J'aimerais poser la question à l'invité de savoir... Quels sont les éléments pour identifier que ça, c'est l'information du fake news et ça, ce n'est pas? Parce qu'on avait vu lors du procès du sénateur Matata Ponyo, on avait déjà fait donc le montage sur l'image du sénateur au moment où ça n'était pas lui. Alors j'aimerais savoir à l'invité quelles sont les différences, quels sont les éléments pour identifier que ça c'est l'information du fake news ou ça ce n'est pas. Merci.
Bien, Safari, depuis Gabarrière, bonjour.
Bonjour, bonjour.
On vous écoute.
Oui, ok. J'aimerais tout simplement signaler quelque chose qui vient de tomber sur les réseaux sociaux. Il y a de cela deux ou trois jours que je ne me trompe pas. Le fait mise la question parle à propos de la loi que le député vient de proposer, c'était la semaine passée, la loi qui parlait à propos de la dot. Alors, j'ai suivi monsieur le député. Lui, le député, avait parlé de ce que la dot devrait être désormais de $200 américains ou $500 américains. Alors, le fake news a dit quoi? Le fake news a laissé monsieur le député qui a proposé la loi, mais le fake news parle de ce que le président de la République nous dit que désormais, une fille qui n'a pas étudié, sa dot sera $30. Hein? Une fille qui a étudié jusqu'à 6e année primaire, à d'autres grands $50. Et une fille qui a étudié jusqu'au 6e année secondaire, à d'autres sera $100. Et il continue. Une fille qui a étudié jusqu'à l'université, elle sera $200. Et une fille qui a présenté le doctorat sera $500. Donc, le fait qu'il existe. J'aimerais savoir. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire parce que le fake news risque de passer même les vraies informations. Qu'est-ce que nous allons faire?
Bien. Le fake news sur cette affaire des dots. Professeur Berki.
Oui, merci Jody. Ce qui est vrai, bon, parce que Safari parle de le président, ou même si c'est le président de l'Assemblée nationale, il y a des voix officielles pour que s'expriment ces différentes autorités. Donc la première des choses à savoir, je parlais des éléments pour identifier une fake news. Par exemple, il y a toujours vérifier si c'est la source officielle. Si le président de l'Assemblée nationale ou le président de la République veut s'exprimer, il y a une voix. Au-delà de ce propos à lui-même, il y a tout un service qui se sert de communiquer les positions, les points de vue du chef de l'État. Donc, tant qu'une information n'est pas transmise de façon officielle, il faut toujours prendre le temps de vérifier, de se rassurer que réellement cette information est vraie. Et deuxièmement, les députés, la loi, elle a été, je crois, mise sur les réseaux sociaux une fois que le député l'a déposée. Les députés, ce n'est qu'une proposition de loi, ça aussi, il faut déjà le savoir, donc qui n'est pas encore applicable. Ça, c'est de un. Et puis, de deux, les députés qui a proposé cette loi est joignable. On sait où le joindre, où le voir pour vérifier toutes ces informations. Et puisqu'il est, lui, auteur, porteur de cette loi, c'est à lui qu'il faut, c'est chez lui qu'il faut avoir le maximum des informations. Donc voilà, je parlais du complotisme qui gangrène un peu notre sphère, la web sphère, parce que Il y a des gens qui sont dans une forme de penser le monde, penser la vie, et qui ont tendance à l'imposer aux autres. Et pour ce faire, ils créent de l'information. La plus grande richesse actuellement, c'est l'information. Et qui a l'information est fort. Qui a l'information domine surtout. Alors, à travers l'information, ils veulent nécessairement imposer leur pensée. À travers l'information, ils veulent nécessairement orienter leur façon de voir les choses. Et c'est pourquoi, justement, on a ces dérives qui arrivent souvent sur les réseaux sociaux à travers l'information.
Bien. Alors, professeur Berki, les journalistes professionnels, comment peuvent-ils faire pour contrer les fausses informations?
Alors, la première des choses pour le journaliste professionnel, comme on l'a appris à l'école, c'est savoir revenir sur le principe d'une information vraie est une information vérifiée. Et quand bien même il s'agirait d'une exclusivité que vous voudrez avoir, il faut toujours recourir à des sources qui sont fiables, à des sources qui sont réellement proches de l'information. C'est-à-dire, quand par exemple je reçois une information selon laquelle le cardinal serait décédé, j'ai des sources auprès de la CENCO, j'ai recours à la CENCO pour vérifier que c'est vrai, parce que c'est déjà une information de grande importance. On ne peut pas s'hasarder de diffuser, de partager une information de si grande importance sans préalablement l'avoir vérifiée. Le journaliste est tenu de toujours aller faire son terrain. Et le terrain, c'est aussi de la vérification. Tant qu'il n'a pas vérifié, il ne peut pas diffuser cette information. Tant qu'il n'a pas fait le recoupement des différentes sources pour se rassurer, il peut appeler le secrétaire général de la CENCO, il prend pas, mais il y a toujours moyen d'atteindre la CENCO d'une certaine manière. Et tant qu'une information n'est pas encore vérifiée, utilisez les conditionnels. Là, ce sont des notions élémentaires que on a appris à l'école et qui sont démises même au niveau de réseaux sociaux ou encore des sites d'information en ligne.
Bien, voilà, c'est cette façon-là qu'on peut. Et bien, il y a également des médias qui ont des sites officiels. Les gens peuvent, s'ils veulent se rassurer par rapport à une information, ils peuvent aller sur ces sites pour vérifier.
Le problème, c'est la mise à jour, en fait. Hein, il peut arriver aussi qu'il y ait un retard de mise à jour pour les sites. La plupart des sites officiels ne sont pas à jour. Il faut un travail. Il y a des ordonnances qui sont signées, qui ne sont pas encore sur le site de la présidence de la République. Ça, c'est un problème. Mais c'est un problème qui est interne à la présidence. Alors, le journaliste, lui, ce qu'il doit faire, c'est de recourir à la personne ressource. Si l'information doit nécessairement être diffusée, et nous le savons, il y a des informations qui sont sous embargo, des informations qui sont off the record, mais le journaliste, à travers sa source, qui peut être quelqu'un de très bien placé je prends le cas de la présidence, au niveau de la présidence, qui peut fournir l'information, confirmer et ne pas être cité. Là, au moins, on est sûr. On a une source qu'on ne citera jamais, mais qui nous a rassuré de l'information. Et à un moment, on peut même retrancher de la chose, dire voilà, mais nous, on a été informés, c'est vrai, c'est ça. Mais tant qu'on n'est même pas sûr de la source, on ne peut pas diffuser cette information.
Et comment expliquer cette tendance des internautes, voire même des journalistes, de relayer des fake news sans pour autant avoir le temps de vérifier sur WhatsApp, sur Twitter, les gens se partagent facilement et ça va dans tous les sens.
Oui, mais c'est comme je le disais, l'information aujourd'hui est la denrée la plus prisée. Vous savez, je dis, les gens ont soif de l'information, ils veulent nécessairement être au courant. Le fait d'apprendre que le cardinal a été transféré dans un hôpital en France amène les différents chrétiens catholiques, fidèles catholiques, à attendre, à chercher l'information sur l'état de santé du cardinal. Et si, par exemple, la CENCO traîne à donner l'information, parce qu'estimant que cette information, avant d'être donnée, doit être filtrée, traitée d'une certaine manière, les gens vont recourir à d'autres sources. C'est cela, en fait, le problème. C'est au niveau de l'absence de l'information. Si l'information est suffisamment bien suivie, suffisamment bien donnée, les gens vont recourir aux sources officielles qui, sachant que l'information est donnée minute après minute.
Il y a Petron Desi de Kindu qui est revenu sur le procès Matata. On a vu comment ça allait dans tous les sens dans les réseaux sociaux et même certains journalistes ont relayé des fausses informations.
Oui. Oui, il y a aussi ce côté-là, vouloir nécessairement plaire à quelqu'un. Il y a dans nos médias ce côté-là, parce qu'il faut soit faire plaisir au sénateur Matata, il faut que l'information sur lui revienne tout le temps, ou soit qu'il faut lui faire du mal, hein, on revient sur l'information sur lui. Donc, et cela encouragerait même cette fabrication de l'information. Parce qu'il faut nécessairement donner de l'information. Et puisque les gens sont à l'affût de l'information, ils doivent savoir est-ce que Bakangi était. C'est intéressant, les gens veulent savoir. Et puisque le média doit vendre, le média doit se rendre utile, il doit exister par rapport à cette journée, par rapport à cette information, il fait ce qu'il peut pour exister. Et à chaque fois qu'il tombe sur quelque chose, il prend et il balance. Et cette facilité qu'offre Internet, de diffusion, hein, donc permet justement que les fausses informations filtrent, passent rapidement. Parce que s'il fallait que ça soit passé à la télé, il faut, faut attendre un conseil de rédaction, il faut qu'il y ait encore vérification, il faut qu'il y ait montage, il faut des éléments. Donc ça prend du temps, alors que sur Internet, il suffit d'écrire deux, trois mots et de partager.
Donc c'est un peu la course, tout le monde veut être à la page, diffuser le premier.
Tout le monde veut être au courant. Et plus les gens sont dans le besoin de l'information, plus ils sont ouverts à toute forme d'information. Parce qu'ils veulent l'information. Et si du côté de ceux qui doivent donner l'information, il y a un retard, il y a une absence d'information, les gens ne supportent pas cette incommunication. Les gens doivent nécessairement trouver le moyen d'avoir l'information. Et dès qu'ils tombent sur quelque chose, voilà, oui, vous ne pouvez pas vous imaginer comment est-ce que les fake news ou les documents, les tracts circulent sur les réseaux sociaux. Il faut voir, ça transfère. Il suffit d'avoir ça, on partage, parce qu'on est sûr qu'on a l'information maintenant. Quand il y avait on attendait la sortie du gouvernement, tellement il y avait cette impatience. On a eu 10 000 listes des membres du gouvernement. Parce que les gens attendaient, voulaient avoir l'information, et l'information tardait. Qu'est-ce que, conséquence, les gens fabriquent eux-mêmes l'information, et ceux qui fabriquent bien sont un peu plus considérés.
Bien, l'ingénieur Jules Okandjo nous a écrit sur Facebook, il dit, à mon humble avis, je commence par cette question, est-ce que la RDC a un service compétent avec une base de données fiable pour le contrôle des réseaux sociaux? Je trouve que le problème des fake news est un problème gouvernemental par le ministère des Communications. Il faut réglementer les choses. Exemple, il y a des groupes Facebook réglementés de sorte que si quelqu'un veut poster une chose qui n'est pas conforme, ça ne peut pas partir. De sorte que par le canal des journalistes, on arrive à surveiller toute la publication sur les territoires nationaux, comme on l'a fait avec le RAM. Ils ont presque touché toute la nation, et de même, si c'est possible, pour gérer les fake news. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'ingénieur Jules Okandjo?
Bon, monsieur Okandjo, je peux vous rassurer que la recrudescence de fake news n'est pas l'apanage de la RDC. Il y a des cas emblématiques comme France avec Nutella, Starbucks, où les gens ont même raconté qu'on offrait de la boisson gratuitement aux personnes sans papier, ou encore que Nutella devait retirer des produits. Ça se remarque partout. Et réglementer cela. J'ai parlé tout à l'heure de la loi qui est en gestation au Parlement. Peut-être avec cette loi, on pourra avancer. Hein, et le monitoring qui se fait, bon, déjà, je sais que le CSA qui devait s'impliquer dans ce monitoring, peut-être qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour le faire. Mais c'est un travail qui nécessite beaucoup de moyens, un suivi considérable. Hein, mais c'est pas parce qu'on fait le monitoring qu'on va rapidement ou nécessairement arrêter tous les fake news. Non, ce qu'on peut faire, c'est rapidement revenir pour corriger ces fake news. Ça c'est ce qui peut être fait. Ce qui peut être mis, le service qui peut être mis en amont. Mais éviter qu'il y ait fake news, ça on peut pas. On peut pas, parce que même dans les pays où on peut dire que les gens sont consciencieux, un peu plus développés, mais il y a toujours des fake news. Parce qu'il y a un besoin d'informer les gens. Il y a ce côté-là complotiste où les gens veulent créer des histoires. C'est de la nature humaine, de la culture. Donc, on ne peut pas empêcher qu'il y ait fake news, mais on peut rapidement remédier aux fake news.
Voilà, en donnant rapidement des bonnes informations. Bien, professeur Berki Kitumu Maimona, expert en technologie web, merci d'avoir accepté notre invitation et excellente journée.
Merci beaucoup, Jody. Excellente journée à vous aussi.
Radio Okapi.
À Kamina.
Okapi.
Sur 104.3 FM.
Okapi.
Dans la province de la Tchopo, il se tient à l'université de Kisangani un séminaire atelier de présentation des résultats des recherches menées pendant 5 ans sur les biefs navigables du fleuve Congo, de Kinshasa à Kisangani. Nous avons en ligne le professeur Raphaël Chimanga, directeur du Centre de recherche des ressources en eau du bassin du Congo. Professeur Raphaël, bonjour.
Bonjour, M. Tati, M. le journaliste de la radio Capri, merci.
Bien, il s'agit plutôt des Jody Kachama. Alors dites-nous, professeur...
Ah, M. Jody, merci beaucoup.
Voilà, vous êtes à Kisangani pour cet atelier sur le bief navigable. Alors comment se présentent les... Quels sont les résultats de ces recherches menées pendant 5 ans?
Non, disons que plutôt ce n'est pas la recherche sur le bief navigable, mais c'est plutôt la recherche sur les nexus climat ou migration et conflit dans le bassin du Congo. Ça, c'est une recherche que nous avons menée dans les provinces de Bazouélé, Haute-Ouélé et Ituri sur la problématique des migrations et conflits dus au changement climatique et à l'eau en vue de renforcer la résilience des communautés dans le bassin du Congo. Nous savons très bien que depuis un certain moment, nous sommes en train d'assister au flux migratoire des peuples qui viennent du nord du bassin du Congo, notamment les pays du bassin du lac Tchad, qui sont en train de venir vers le bassin du Congo, notamment nous les connaissons sous les noms de Mbororo. Mm-hmm. Alors, leur venue au niveau des provinces de la partie nord-est de la RDC n'est pas sans conséquence. Donc, il y a des implications sécuritaires, il y a des implications sur la gestion des ressources naturelles, il y a des conflits entre des conflits culturels, mais il y a aussi au centre le climat, la question du climat, la question de l'eau, puisque nous sommes aussi en train de voir les aspects de transfert des eaux. On est en train de parler de pourquoi ils sont venus, pourquoi on est en train d'envisager le transfert des eaux du bassin du Congo seulement en cette partie. Ce sont là les questions qui se posent mais qui n'ont pas de réponse. Et c'est pour cela que depuis 2019, nous avons constitué, nous avons mis en place une équipe multidisciplinaire composée des professeurs de l'Université de Kinshasa, des chercheurs, des experts, pour pouvoir aborder cette question de migration et conflit dû au changement climatique et à l'eau dans le bassin du Congo. Alors, c'est une étude pilotée par le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, dont je suis le directeur. Alors, à l'issue de cette étude, donc après 2 ans d'étude, c'est que nous avons des résultats pertinents que nous devons vulgariser, que nous devons partager avec les décideurs, que nous devons partager avec les chercheurs, pour pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons orienter les politiques et les stratégies de gestion des ressources naturelles en vue de pouvoir renforcer la résilience des populations du bassin du Congo. C'est un peu cela le contour de l'étude ou bien de l'atelier que nous sommes en train de tenir en ce moment à Kisangani.
Et quand est-ce que ces travaux vont prendre fin?
Bon, disons que l'atelier va jusque le jeudi, mais les travaux de recherche, c'est que nous avons déjà eu des grands résultats. Et avec cet atelier, c'est que nous allons aussi recevoir des informations supplémentaires, mais nous allons aussi faire valider les résultats de nos recherches auprès des parties prenantes, puisqu'il y a des représentants de 3 provinces ciblées pour l'étude, notamment Bazouélé, Haute-Ouélé, Ituri, qui sont venus. Il y a des représentants des parcs, des aires protégées qui sont là, par lesquels il y a même le transit des migrants.
Merci, professeur.
Merci. Des institutions provinciales.
Professeur Raphaël.
Provinciaux qui sont là avec nous.
D'accord.
Alors, nous sommes en train d'échanger.
Merci, professeur.
Un cadre d'échange pour voir comment est-ce que nous pouvons faire valider nos informations que nous avons ici.
Merci, professeur Raphaël Chimanga, directeur du Centre des recherches des ressources en eau du bassin du Congo. Et c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.